Chapitre 16. La tête remplie de Georges Bernouel, je ne fus d'abord pas éloigné de croire qu'à mon insu, j'étais pour quelque chose dans l'attentat commis sur ma sœur, ou que, dans tous les cas, étant son plus proche parent et passant généralement pour lui avoir quelques obligations, j'étais plus que tout autre exposé à devenir l'objet de légitimes soupçons. Mais quand le lendemain, à la brillante clarté du jour, je raisonnais de l'affaire en entendant discuter autour de moi, je la considérais sous un jour tout à fait différent, et en même temps plus raisonnable. Joe avait été fumer sa pipe aux trois jolis bateliers, depuis 8h15 jusqu'à 10h15. Pendant son absence, ma sœur s'était mise à la porte et avait échangé le bonsoir avec un garçon de ferme qui rentrait chez lui. Cet homme ne put dire positivement à quelle heure il avait quitté ma sœur, il dit seulement que ce devait être avant 9h. Quand Joe rentra à 10h05, il la trouva étendue à terre et s'empressa d'appeler à son secours. Le feu paraissait avoir peu brûlé et n'était pas éteint, la mèche de la chandelle pas trop longue. Il est vrai que cette dernière avait été soufflée. Rien dans la maison n'avait disparu, rien n'avait été touché, si ce n'est la chandelle éteinte qui était sur la table, entre la porte et ma sœur, et qui était derrière elle, quand elle faisait face au feu et avait été frappée. Il n'y avait aucun dérangement dans le logis, si ce n'est celui que ma sœur avait fait elle-même en tombant et en saignant. Il s'y trouvait en revanche une pièce de conviction qui ne manquait pas d'une certaine importance. Ma sœur avait été frappée avec quelque chose de dur et de lourd. Puis, une fois renversée, on lui avait lancé à la tête quelque chose avec beaucoup de violence. En la relevant, Joe retrouva derrière elle un fer de forçat qui avait été limé en deux. Après avoir examiné ce fer de son œil de forgeron, Joe déclara qu'il y avait déjà quelque temps qu'il avait été limé. Les cris et la rumeur parvinrent bientôt au ponton, et les personnes qui en arrivèrent pour examiner le fer confirmèrent l'opinion de Joe. Elles n'essayèrent pas de déterminer à quelle époque ce fer avait quitté les pontons, mais elles affirmèrent qu'il n'avait été porté par aucun des deux forçats échappés la veille. De plus, l'un des deux forçats avait déjà été repris et ne s'était pas débarrassé de ses fers. Sachant ce que je savais, je ne doutais pas que ce fer ne fût celui de mon forçat, ce même fer que je l'avais vu et entendu limer dans les marais. Cependant, je ne l'accusais pas d'en avoir fait usage contre ma sœur, mais je soupçonnais qu'il était tombé entre les mains d'Orlick ou de l'étranger, celui qui m'avait montré la ligne, et que l'un de ces deux individus avait pu seul s'en servir d'une manière ainsi cruelle. Quant à Orlick, exactement comme il nous l'avait dit au moment où nous l'avions rencontré à la barrière, on l'avait vu en ville pendant toute la soirée. Il était entré dans plusieurs tavernes avec diverses personnes, et il était revenu avec M. Hopsley et moi. Il n'y avait donc rien contre lui, si ce n'est la querelle, et ma sœur s'était querellée plus de 1000 fois avec lui, comme avec tout le monde. Quant à l'étranger, aucune dispute ne pouvait s'être élevée entre ma sœur et lui s'il était venu réclamer ses deux banquenotes, car elle était parfaitement disposée à les lui restituer. Il était d'ailleurs évident qu'il n'y avait pas eu d'altération entre ma sœur et l'assaillant, qui était entré avec si peu de bruit et si inopinément qu'elle avait été renversée avant d'avoir eu le temps de se retourner. N'était-il pas horrible de penser que, sans le vouloir, j'avais procuré l'instrument du crime? Je souffrais à l'impossible, en me demandant sans cesse si je ne ferais pas disparaître tout le charme de mon enfance, en racontant à Joe tout ce qui s'était passé. Pendant les mois qui suivirent, chaque jour je répondais négativement à cette question, et, le lendemain, je recommençais à y réfléchir. Cette lutte venait, après tout, de ce que ce secret était maintenant un vieux secret pour moi. Je l'avais nourri si longtemps qu'il était devenu une partie de moi-même et que je ne pouvais plus m'en séparer. En outre, j'avais la crainte qu'après avoir été la cause de tant de malheurs, je finirais probablement par m'aliéner Joe s'il me croyait. Mais me croirait-il? Ces réflexions me décidèrent à temporiser. Je résolus de faire une confession pleine et entière si j'entrevoyais une nouvelle occasion d'aider à découvrir le coupable. Les constables et les hommes de Bow Street, de Londres, séjournèrent à la maison pendant une semaine ou deux. Ils ne firent pas mieux en cette circonstance que ne font d'ordinaire les agents de l'autorité en pareil cas, du moins d'après ce que j'ai lu ou entendu dire. Ils arrêtèrent des gens à tort et à travers, et se butèrent la tête contre toutes sortes d'idées fausses en persistant, comme toujours, à vouloir arranger les circonstances d'après les probabilités au lieu de chercher les probabilités dans les circonstances. Aussi, les voyait-on à la porte des trois jolis bateliers avec l'air réservé de gens qui en savaient beaucoup plus qu'ils ne voulaient en dire, et cela remplissait tout le village d'admiration. Ils avaient des façons aussi mystérieuses en saisissant leur verre que s'ils eussent saisi le coupable lui-même. Pas tout à fait, cependant, puisqu'ils n'en firent jamais rien. Longtemps après le départ de ces dignes représentants de la loi, ma sœur était encore au lit très malade. Elle avait la vue toute troublée, de sorte qu'elle voyait les objets doubles, et souvent elle saisissait un verre ou une tasse à thé imaginaire au lieu d'une réalité. Louis était chez elle gravement affecté, la mémoire aussi, et ses paroles étaient inintelligibles. Quand, plus tard, elle put descendre de sa chambre, il me fallut tenir mon ardoise constamment à sa portée pour qu'elle pût écrire ce qu'elle ne pouvait articuler. Mais, comme elle écrivait fort mal, qu'elle était médiocrement forte sur l'orthographe et que Joe n'était pas non plus un habile lecteur, il s'élevait entre eux des complications extraordinaires que j'étais toujours appelée à résoudre. Cependant, son caractère s'était considérablement amélioré, elle était devenue même assez patiente. Un tremblement nerveux s'empara de tous ses membres, et ils prirent une incertitude de mouvement qui fit partie de son état habituel, puis, après un intervalle de 3 mois, à peine pouvait-elle porter sa main à sa tête, et elle tombait souvent pendant plusieurs semaines dans une tristesse voisine de l'aberration d'esprit. Nous étions très embarrassés pour lui trouver une garde convenable, lorsqu'une circonstance fortuite nous vint en aide. La grand-tante de M. Hopsley mourut, et celui-ci, voyant l'état dans lequel ma sœur était tombée, laissa Biddy venir la soigner. Ce fut environ 1 mois après la réapparition de ma sœur dans la cuisine que Biddy arriva chez nous avec une petite boîte contenant tous les effets qu'elle possédait au monde. Ce fut une bénédiction pour nous tous, et surtout pour Joe, car le cher homme était bien abattu en contemplant continuellement la lente destruction de sa femme, et il avait coutume, le soir, en veillant à ses côtés, de tourner sur moi de temps à autre ses yeux bleus humides de larmes en me disant
« C'était un si bon corps de femme, mon petit Pip !»
Biddy entra ensuite en fonction et prodigua à ma sœur les soins les plus intelligents, comme si elle n'eût fait que cela depuis son enfance. Joe put alors jouir en quelque sorte de la plus grande tranquillité qu'il eut jamais goûtée durant tout le cours de sa vie, et il eut le loisir de pousser de temps en temps jusqu'aux 3 jolis bateliers, ce qui lui fit un bien extrême. Une chose étonnante, c'est que les gens de la police avaient tous plus ou moins soupçonné le pauvre Joe d'être le coupable, sans qu'il s'en doutât, et que, d'un commun accord, ils le regardaient comme un des esprits les plus profonds qu'ils eussent jamais rencontrés. Le premier triomphe de Biddy, dans sa nouvelle charge, fut de résoudre une difficulté que je n'avais jamais pu surmonter, malgré tous mes efforts. Voici ce que c'était. Toujours et sans cesse, ma sœur avait tracé sur l'ardoise un chiffre qui ressemblait à un T. Puis elle avait appelé notre attention sur ce chiffre, comme une chose dont elle avait particulièrement besoin. J'avais donc passé en revue tous les mots qui commençaient par un T, depuis tabac jusqu'à tyran. À la fin, il m'était venu dans l'idée que cette lettre avait assez la forme d'un marteau, et ayant prononcé ce mot à l'oreille de ma sœur, elle avait commencé à frapper sur la table en signe d'assentiment. Là-dessus, j'avais apporté tous nos marteaux, les uns après les autres, mais sans succès. Puis j'avais pensé à une béquille. J'en empruntai une dans le village, et, plein de confiance, je vins la mettre sous les yeux de ma sœur. Mais elle se mit à secouer la tête avec une telle rapidité que nous eûmes une grande frayeur. Faible et brisée comme elle l'était, nous craignîmes qu'elle ne se disloquât le cou. Quand ma sœur remarquait que Biddy la comprenait très vite, le signe mystérieux reparut sur l'ardoise. Biddy l'examina avec attention, entendit mes explications, regarda ma sœur, me regarda, regarda Joe, puis elle courut à la forge, suivie par Joe et par moi.
« Mais oui, c'est bien cela !» s'écria Biddy. « Ne voyez-vous pas que c'est lui ?»
C'était Orlick. Il n'y avait pas de doute. Elle avait oublié son nom et ne pouvait l'indiquer que par son marteau. Biddy le pria de venir dans la cuisine. Orlick déposa tranquillement son marteau, essuya son front avec son bras, puis avec son tablier, et vint en se dandinant avec cette singulière démarche hésitante et sans souci qui le caractérisait. Je m'attendais, je le confesse, à entendre ma sœur le dénoncer, mais les choses tournèrent tout autrement. Elle manifesta le plus grand désir d'être en bon terme avec lui, elle montra qu'elle était contente qu'on le lui amenait, et elle parla de lui offrir quelque chose à boire. Elle examinait sa contenance, comme si elle eût particulièrement souhaité de s'assurer qu'il prenait sa réception en bonne part. Elle manifestait le plus grand désir de se le concilier, et elle avait vis-à-vis de lui cet air d'humble soumission que j'avais souvent remarqué chez les enfants en présence d'un maître sévère. Dans la suite, elle ne passa pas un jour sans dessiner le marteau sur son ardoise, et son corlic vint en se dandinant se placer devant elle, avec sa mine hargneuse, comme s'il ne savait pas plus que moi ce qu'il voulait faire.